Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront l'un les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On va juste s'arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 14 versets. Tout d'abord, les enfants, prenez note, c'est juste l'introduction. Quand viendra le point principal, je vous le dirai, je préciserai que ce sera le point principal. Mais dans l'introduction, il y a deux petits points que je vais souligner, donc retenez ces deux petits points dans l'introduction. Tout d'abord, l'évangile de Matthieu a trois grands discours de Jésus. Quand on lit l'évangile dans son entier, on s'aperçoit que Jésus va faire des discours dans l'évangile de Matthieu, et le premier se trouve dans le sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7. Et ça sera l'occasion pour lui de parler justement de cette charte des lois qui est dans le sens pour les enfants qui vont le suivre dans son royaume. Deuxième grand discours dans l'évangile de Matthieu, ça se trouve dans le chapitre 13 où Jésus va faire toute une série de paraboles qui vont parler du royaume des cieux, qui va illustrer le royaume au travers de toutes ces paraboles. Et puis, nous avons le troisième grand discours où Jésus va mettre l'accent sur la fin, c'est-à-dire sur ce que nous allons aborder ce matin, donc le chapitre 24 et le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Donc, discours prophétique orienté vers la grande tribulation et vers la seconde venue de Jésus. Alors, bien sûr que c'est un passage qui est à polémique, beaucoup ont écrit là-dessus, mais on va rester, si vous voulez bien, dans le texte, et uniquement dans le texte, pour comprendre ce que Jésus va annoncer là à ses disciples. Deux vérités fondamentales qu'il faut se rappeler par rapport à ce texte. La première vérité fondamentale, c'est que Jésus révèle ces choses non pour satisfaire une curiosité, mais pour préparer à affronter un temps difficile. Et je pense que les disciples, quand ils sont venus poser ces trois questions à Jésus, eh bien, Jésus avait besoin de les préparer. Et je pense que nous avons besoin, parfois, en tant qu'enfants de Dieu, d'entendre des choses comme cela afin de nous préparer. Parce que les temps que le Seigneur a dit, c'était pour les avertir. Et si vous lisez le chapitre 24 dans son ensemble, vous avez plusieurs impératifs qui vont revenir et qui vont vous montrer que le Seigneur était là pour avertir donc dans la solennité. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, prenez garde, c'est ce que vous avez dès le début de ce passage. Gardez-vous, un deuxième impératif. Veillez donc, c'est un troisième impératif qui se trouve dans ce chapitre, et le verset 44, toujours du même chapitre, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, quelque part, le Seigneur est en train de dire à ses disciples, tenez-vous prêt. Vous ne connaissez pas l'heure ni le temps. On aimerait savoir que le Seigneur reviendra en 2020, vers la fin de préférence. Seigneur, laisse-moi passer l'été, j'ai encore besoin de passer quelques instants l'été. On aimerait savoir que le Seigneur revienne bientôt. Mais le Seigneur n'a jamais donné ni le temps ni la part. Après tout, c'est seul Dieu connaît ce temps-là. Et le Seigneur nous demande tout simplement, tenez-vous prêt par la prière et par la vigilance. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir, tout ce qui se passe, a un but bien précis, le retour de Christ. Ça, c'est ma conclusion. Tout ce que le Seigneur est en train de dire, là, au travers de ce passage, c'est que un jour, le Seigneur va revenir chercher les siens. Et je pense que cela montre bien une manière de penser en tant qu'enfant de Dieu. Juste une petite parenthèse. Vous savez ce que j'ai pensé durant toute cette semaine ? Ne vous inquiétez de rien. Tout cela, ce qui arrive aujourd'hui, ça prépare le retour de Christ. Tout ce qui est en train de se passer dans notre société aujourd'hui prépare le retour de Jésus-Christ. Deuxième vérité fondamentale dans ce texte. J'ai toujours cru que la Bible était valable autant pour les enfants, donc on en a mis quelques-uns ce matin qui me notent, mais aussi pour les personnes qui ont 70 ans. C'est-à-dire que la Bible est faite pour être comprise d'enfants. Et j'aime enseigner les enfants, j'aime leur dire ce que le Seigneur a dit dans la parole de Dieu, mais une personne de 70 ans aussi peut être instruite. Et ces chapitres, ces passages que nous avons dans la parole de Dieu, ces versets de la parole de Dieu, ne sont pas là pour nous mettre dans la confusion, de nous perturber notre esprit, quoique on n'a pas besoin de lire un passage de la parole de Dieu pour être perturbé dans notre cervelle. Mais parfois, on se dit, mais pourquoi le Seigneur n'a pas répondu à telle ou telle chose avec un peu plus de précision? Pourquoi n'a pas-t-il donné l'heure, la venue de sa venue, etc., etc. Mais il donne des choses importantes, et cela est quand même important de le signaler, parce que quelque part, c'est pour nous instruire. Et c'est ce que je voudrais retenir, en tout cas, ce matin. Les trois questions qui ont été posées par les disciples avaient d'abord un but qu'ils voulaient montrer le Seigneur au travers de cet événement qui allait venir. Alors, bien sûr, il va commencer dès le début en parlant du temple, et le temple ne va pas rester là, pierre sur pierre, il va être détruit un petit peu plus tard, mais le Seigneur ne va pas répondre forcément là, directement, à cette question-là, mais il va donner un petit peu plus de précision dans un autre évangile, par exemple, Luc, chapitre 21, où il va donner un peu plus de précision. Mais il va aussi, il va y avoir une interrogation par rapport aux signes qui vont précéder. C'est-à-dire que le Seigneur quand même donne dans ce chapitre quelques détails qui montrent bien que ce chapitre est prophétique. Pourquoi ? Parce que le verset 8 parle, c'est pourquoi, verset 15 du chapitre 24, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Donc, un petit détail qui montre, ben voilà, il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à cette situation. Le verset 8 aussi, le commencement des douleurs. Donc, quelque part, il y a là un petit moment où il va donner juste quelques signes par rapport à cette venue. Je voudrais aussi signaler le contexte du chapitre, parce que souvent, on pense que ce chapitre s'adresse à l'Église. Il suffit simplement de faire une lecture assez rapidement pour voir que ce discours était un discours pour les Juifs. Pourquoi je dis cela? Regardez verset 16, Jésus parle de la Judée, verset 16. Jésus parle du sabbat, verset 20. Jésus parle de la prophétie de Daniel concernant les Juifs, verset 15. Donc cela montre bien qu'il y a un contexte bien particulier. Alors certains vont dire, non mais c'est à l'enlèvement de l'Église, tout ça. Donc juste après l'enlèvement de l'Église, voilà ce qui va se passer. L'Église, là, n'est pas du tout atteinte. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. Les disciples n'étaient pas du tout au courant par rapport à ça. Elle va rester un mystère pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester mystérieuse pour longtemps, puisque assez rapidement, quand les disciples vont accompagner l'évangélisation de la nation, en tout cas du monde entier, on va voir que certains événements vont venir les uns après les autres. Mais Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 44, le Seigneur nous parle, nous traite de l'avènement qui doit se dérouler dans la grande tribulation, et on va les voir un petit peu dans d'autres passages. Il y a là des passages que nous devons mettre en parallèle dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel par exemple. Alors bien sûr, c'est pas au travers d'une prédication le dimanche matin que je pourrais parler de tous ces détails, mais cela montre bien que le Seigneur est en train de préparer, et il dit à ses disciples, voilà ce qu'il doit arriver. Et je me dis, mais les disciples ne l'ont pas vécu. Si vous le regardez bien, tout ce que le Seigneur est en train d'expliquer là, les disciples ne vont pas du tout le vivre. Certains n'ont pas vu la destruction du temple à l'an 70. Certains sont morts avant cette destruction-là. Et je me dis, mais tout ce que le Seigneur a dit, c'était pour le futur. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris le psaume 139 pour vous montrer que Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, mais Dieu connaît aussi demain. Et il est en train d'expliquer ce qui va se passer demain. Mon premier grand point, les enfants, c'est le moment de vous noter, le premier grand point, le commencement de la grande tribulation, et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Dans ce grand point, il y a six points, pas un seul point, mais il y a six points que je vais retenir ce matin. Tout d'abord, Dieu va révéler au travers de ce commencement de la grande tribulation qu'il va y avoir des éléments qui vont surgir à un moment donné, qui vont montrer qu'on est dans un temps particulier. Premier élément, la tromperie religieuse. Mais vous allez me dire, mais ça existe de tout temps, ça. Mais là, ça va être intensif. C'est-à-dire que ce qui va être vécu là va être un moment vraiment intensif. C'est-à-dire que ça va être une histoire mondiale. C'est-à-dire que les choses qui vont être vécues, la tromperie religieuse, même si on sait de ci de là, qu'il y a certaines choses qui se passent à l'heure actuelle, et imaginez un peu le temps que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. C'est-à-dire les hommes méchants, imposteurs, les gens irreligieux. Imaginez, on parle de l'évolution souvent, mais imaginez que cette évolution grandisse de plus en plus dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les gens avanceront toujours dans le mal, nous est dit Timothée, chapitre 3, verset 13. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, on va se rapprocher donc du temps que le Seigneur prépare pour son retour. Et c'est pour ça que le Seigneur avertit ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise, plusieurs viendront en mon nom. Depuis l'enlèvement de Jésus, eh bien, il y a des temps difficiles, il y aura des temps encore difficiles au fur et à mesure que nous avançons de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que la tromperie religieuse, était déjà présente déjà dans le présent de notre Seigneur, mais elle va sanctifier, elle va se devenir de plus en plus lourde au fur et à mesure que nous avançons de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Oui, plusieurs personnes vont se lever au nom du Christ et vont annoncer « C'est moi qui suis la vérité ». Et je pense que cela prépare le retour, le commencement de cette grande douleur qui va se passer dans le temps, comme le Seigneur l'a rappelé. Première leçon pour moi, dans ce texte. Les mercenaires existent aujourd'hui, et les mercenaires vont exister de plus en plus qu'on va avancer pour le retour de Jésus-Christ. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont se lever, qui vont dire « C'est moi qui suis le Christ. Venez chez moi, j'ai la plus belle église, j'ai le plus beau bâtiment, j'ai la plus belle maison, ouais, venez chez moi, je suis la vérité. » Mais le Seigneur nous a déjà avertis, et le fait d'avertir doit nous mettre en garde, le fait que c'est pas parce que c'est à la mode que c'est spirituel. Moi, je voudrais quand même vous le dire, c'est pas parce qu'on est à la mode qu'on est forcément spirituel. C'est pas parce que demain je vais porter une casquette sur ma tête que je vais faire jeûne, que forcément je me mets au courant du jour. Vous savez, on a rigolé avec cela en vous envoyant des petites vidéos, comment il fallait se dire bonjour aujourd'hui, on sait pas trop. Alors, aux États-Unis, ils ont compris tout, pour se dire bonjour, ils ne serrent pas la main. Moi, c'était difficile ce matin de ne pas pouvoir faire une accolade, une embrassade. Ce n'est pas du tout dans ma culture. En tout cas, dans ma culture, on aime bien se serrer la main, s'accoler, s'embrasser. Le fait qu'on dise, oh, aujourd'hui, il faut faire un check, il faut faire le coude, il faut faire le pied. On en rigole avec ça. Mais franchement, je me dis, c'est triste d'être en arrivée là aujourd'hui. Mais en même temps, le discernement est nécessaire parfois. Et c'est pas parce que c'est à la mode que c'est forcément spirituel. Et je voudrais quand même le dire, il y a des grands rassemblements, il y a des personnes qui font des grands trucs des fois, qui disent, ah ben oui, c'est la modernité, c'est normal, tout ça, mais c'est pas forcément ce que le Seigneur attend de nous. Moi, je me réjouis de savoir que une église, je ne cherche pas la quantité, et j'espère que l'église va grandir, ne vous trompez pas dans mes paroles, je cherche la qualité. Je préfère qu'on soit 80, mais 80 de qualité, que d'être 1000 et d'être 1000 qui marchent n'importe quoi et qui marchent n'importe comment. Donc les mercenaires existeront toujours, et au plus ça va avancer, au plus les mercenaires vont venir de plus en plus. Verset 6, deuxième élément important, les guerres. Notons que les guerres ne sont pas un signe de la fin. C'est clairement dit. Les guerres ont toujours existé. Quand on lit des fois la Bible, quand on regarde la Bible, certaines personnes m'ont déjà dit être découragées, parce que c'est vrai que quand on prend l'Ancien Testament, faut avouer que des fois, il y a des choses qui font un peu surgir. Moi, j'ai de la peine parfois de savoir certaines histoires qui sont sanguinolentes. Comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment difficile de voir que certains peuples se sont haïs à un moment donné, se sont détestés. Mais les guerres ont toujours existé. John Glass, qui est venu ici prêcher, pas dans l'église, mais dans la salle des fêtes, a fait un petit livre sur la réflexion chrétienne sur les guerres. Et voici ce qu'il dit dans son petit livre. La guerre est contagieuse. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire que la guerre, c'est contagieux. C'est inévitable. Un gouvernement agressif au milieu d'une nation pacifique ou pacifiste enflammera toute la région. Et vous savez, quand on regarde le cœur humain, les guerres sont inévitables. Et Dieu le dit même, Jésus le dit même. C'est pas le temps de la fin. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont normales, c'est des choses qui vont arriver, et c'est des choses que vous allez voir de plus en plus. Vous savez, depuis que je suis né, en 1964, quand j'ai compris un petit peu la conscience, j'ai compris que, ouais, peut-être qu'il fallait que je reste dans le ventre de ma mère. Enfin, je dis ça maintenant, mais franchement, j'ai rarement pas connu un moment difficile dans ce monde. Et parfois, on a parlé de certaines situations vécues dans des moments bien particuliers dans le monde, mais des fois, quand on regarde l'Afrique ou certains pays en Afrique, c'est triste de voir ce qui se passe dans ces nations. Quand je vois certaines choses qui se passent en Amérique du Sud, c'est triste parfois. Quand je vois certaines choses qui se passent ailleurs dans le monde, mais je me dis, mais c'est triste. Mais quand on se réfléchit un petit peu, eh bien, c'est toujours l'idée que quelqu'un est là à la tête et veut diriger à sa manière, à sa façon de penser. Et malheureusement, beaucoup de gouvernements dirigent pour leurs propres intérêts. Combien de fois on en a parlé, même ici, certaines personnes qui se sont remplies les poches, mais qui le peuple... Non, le peuple n'en a pas besoin. Ah, vous devriez améliorer pour avoir de bonnes écoles, de meilleures routes. Des fois, je regarde certains reportages à la télévision. Waouh, qu'est-ce qu'on est bien dans mon pays, hein. Les routes, c'est... Quoique certaines ne sont pas nickel non plus, hein. On devrait avoir, avec tous les sous qui nous prennent, on devrait avoir des pavés d'or, hein, dans ce pays, hein. Avec tous les sous qu'on nous prend, hein. Mais franchement, dans certains pays, il n'y a même pas l'histoire de savoir qu'ils ont des pavés d'or, hein. Certains, pour faire 20 km, ils mettent des heures entières, hein, pour y aller, hein. D'un lieu à un autre lieu, hein. Ils mettent des heures entières, des journées entières pour faire 10 km parfois. Donc, oui, des fois, on se dit, oui, les guerres, oui, c'est vrai. Mais les guerres ont toujours existé, elles existeront toujours. Mais le Seigneur rappelle bien que ce n'est pas le temps de la fin. Deuxième enseignement, le monde a toujours eu peur. Et aujourd'hui, le monde a encore peur. Cela ne doit pas nous faire peur, ce qui se passe. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, je l'ai dit en introduction, j'ai vécu plusieurs épidémies, plusieurs virus, chikungunya. C'était pas chez moi, c'était dans les Antilles. Mais plusieurs sont décédés, hein, aux Antilles à cause de cela. Vous avez eu à un moment donné le SRAS. Ah, c'était pas chez moi, c'était chez l'autre. Mais maintenant, on parle du coronavirus. Et le coronavirus, ça se passe en France. On ne peut pas dire que c'est ailleurs. C'est chez moi que ça se passe. Ça peut nous déstabiliser, n'est-ce pas? Mais le monde a peur. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir peur. Ces choses-là doivent arriver. Elles préparent le retour de Jésus-Christ. L'inquiétude va aller grandissant dans notre société. Je disais récemment, et je suis allé voir la postière, parce que toutes les semaines la postière me voit, et puis la dame elle me disait, derrière sa vitre, parce qu'aujourd'hui il y a une grosse vitre là, qui sont là, à Marolles-sur-Seine en tout cas, vous avez vu tout ce qui se passe, et j'ai vu son visage se déformer, quand elle me posait cette question. J'avais envie de lui dire, écoutez, arrêtez 5 minutes de votre travail, c'était pas possible, venez que je vous explique un petit peu, mais c'était pas possible. Mais pour vous montrer que notre société a peur, nous ne devrions pas avoir peur. Hein. Moi, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous savez, ça me fait penser souvent à la tour de Siloé. Jésus n'a jamais commenté la catastrophe. Il a dit, c'est aujourd'hui le jour de la repentance. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est-à-dire que, bien souvent, je me dis, ben écoutez, c'est à notre porte le coronavirus. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si j'ai un enfant, un ami, un parent, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, eh bien, c'est de prier, de demander au Seigneur que Jésus revienne bientôt. Il est à la porte. Ça peut être demain. Jésus peut revenir demain. Si Dieu a décidé que Jésus vienne demain, eh bien que nous soyons prêts à pouvoir dire aux personnes qui nous entourent Jésus revient bientôt. Les éléments de famine et de tremblement de terre, quand on les regarde un petit peu, ici, en tout cas dans le texte, eh bien cela nous montre bien aussi que c'est quelque part déstabilisateur. Quand je mets ce texte en parallèle avec le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 6, verset 6, le texte nous dit qu'une mesure de blé va coûter une journée de travail. Regardez à la maison, Apocalypse, chapitre 6, verset 6, c'est-à-dire c'est un texte qui est parallèle avec ce texte. Une mesure va être la valeur d'une journée de travail. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Je pense qu'à un moment donné, au plus on va se rapprocher de notre Seigneur, du retour de Jésus-Christ, au plus vous allez voir que ce genre de choses va être existante de plus en plus. Aujourd'hui, si on me dirait, Nicolas, écoute, le kilo de pâtes vaut 10 euros, j'aurais du mal à mettre 10 euros à un kilo de pâtes. Mais comme j'aime les pâtes, je suis prêt à les mettre 10 euros le kilo. Mais on n'en trouve plus aujourd'hui. Si vous allez dans n'importe quel commerce, aujourd'hui, enfin je suis habitué à aller dans un commerce, mais vous ne trouvez plus de pâtes. Parce que la plupart viennent d'Italie du Nord. À ce moment, ils n'ont pas livré. Hein. Mais pour vous montrer que, voyez-vous, la mondialisation, c'est qu'elle peut faire. Je me dis, à un moment donné, mais les famines, imaginez qu'il y ait de plus en plus de famines et que le blé coûte de plus en plus cher. Il y en aura que pour les riches, hein. En tout cas pour ceux qui pourront se le payer, l'histoire du blé. Mais on a eu comme ça des mouvements qui se sont levés dans certains pays parce que l'augmentation du pétrole, nous, ça nous a fait lever les gilets jaunes en France. Parce qu'à un moment donné, on a augmenté le pétrole, hein, à la pompe, hein, on voulait nous prendre des sous. Ça a levé les gilets jaunes. Mais dans certains pays, ils ont augmenté le blé, c'est-à-dire la base, le pain, hein, c'est-à-dire ce que les gens mangent le plus couramment. Alors imaginez un petit peu qu'un État augmente les choses de base. Et ça va arriver de plus en plus. Parce que nous voyons que le retour du Seigneur est proche et qu'il va y avoir des choses qui vont arriver de plus en plus. Des fois, je réfléchis, mais ça reste entre nous, quoique c'est enregistré. L'immigration. Vous réfléchissez un petit peu à l'immigration. Vous savez ce que le président turc a fait à l'heure actuelle, qui nous envoie une foule de personnes en Europe. Mais vous imaginez un petit peu que certains pays décidaient demain d'ouvrir toutes leurs frontières, que nous ici on n'en veut plus, hop, que ça parte en Europe. Ça va déstabiliser notre pays, croyez-moi. Des fois on ne réfléchit pas trop bien à ce genre de choses, mais les pays du Sud qui vont vers les pays du Nord, ça existe déjà depuis quelques années. Hein. L'Amérique en parle des fois un peu. Nous on en parle un petit peu. Moi, ce qui m'attriste, hein, c'est qu'on leur tire dessus. C'est qu'on les fait couler. Ne venez pas ici, c'est pas chez vous ici. Ça m'attriste le plus. C'est-à-dire, au lieu de manifester de l'humanité vis-à-vis de ces personnes, on leur dit, vous n'avez pas votre place ici. Ça m'attriste. Mais imaginez qu'il y en ait de plus en plus qui viennent. Ça va déstabiliser, hein. Et le président turc le sait très bien. Hein. Le président turc sait très bien qu'en ouvrant ses frontières, il va déstabiliser toute une économie, tout un pays. Si on n'est pas d'accord avec eux, eh bien moi je vais vous déstabiliser par ma façon de faire, ma façon de penser. Les famines, les tremblements de terre, ça existe, ça va exister, les guerres vont exister de plus en plus. Là, on nous parle d'un quatrième élément, les martyrs. Alors, les martyrs ont toujours existé, mais pendant la période dite prophétique, eh bien, il va y avoir un chaos littéralement par rapport à ça. C'est-à-dire que le texte nous montre bien clairement que les chrétiens vont se détester, vont être détestés du monde, vont être esclaves de la persécution. Alors, bien sûr qu'il y a certains endroits à l'heure actuelle où on voit que certains chrétiens sont persécutés. J'ai écouté comme vous l'actualité avec l'Algérie, où certaines églises se sont fermées en Algérie ou dans certains autres endroits. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, mais imaginez que ça augmente de plus en plus. Et en même temps, le Seigneur nous donne quand même quelques précisions par rapport à ça, c'est-à-dire que ce moment va tellement être une ampleur, mondialement parlant, dans le monde entier, que les martyrs vont se voir, vont même se compter. Et je me dis à l'heure actuelle que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se passent dans notre monde, et l'Église a toujours été persécutée, quand vous le regardez dès le départ, mais au plus on s'approche du retour du Seigneur, au plus cela va augmenter. Le chaos mondial, les choses qui vont se faire avec fidélité vont se faire avec pas du tout fidélité. Moi, souvent, quand je regarde l'actualité, c'est le bien, on l'appelle mal, et le mal, on l'appelle bien. Vous savez, les personnes qui ne se font pas juger, sans donner de nom. Mais je me dis, mais il a quand même violé un enfant. Il est venu en France parce qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas été jugé. Et je me dis, voyez-vous, ces choses-là, ça, je me dis, c'est de l'injustice, mais vous aurez ça de plus en plus dans notre monde. Ce genre de situation, vous le verrez de plus en plus. Et puis, la prédication mondiale, c'est le dernier point, le dernier élément. Ça parle, il faut mettre ce passage en parallèle avec Apocalypse 7, où il parle de 144 000 des évangélistes qui vont aller dans le monde entier pour aller prêcher la parole de Dieu. Et ils vont être là une occasion, bien sûr, de répandre l'évangile. Ma conclusion pour ce matin, parce qu'il y a une conclusion. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Est-ce que vous êtes vigilant dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde en Israël tout ce qui se passe. Là, c'est la lumière du monde, Israël. Et je l'avoue, hein, des fois, quand je regarde Israël, je me dis, oui, oula, ça prépare vraiment le retour du Christ. Mais il n'y a pas besoin de regarder forcément Israël. Franchement, les choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui et en train de préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, veillons, soyons vigilants, soyons fidèles. Je voudrais finir par deux versets. Deux versets. Ésaïe 35, verset 4, qui dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne crains point. Voici, votre Père, la vengeance viendra, et la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Ne crains rien. Moi, j'aime cette expression dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il y en a 366 dans la Bible de ne crains pas. Mais quelque part, ça doit nous encourager de savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde est en train de préparer son retour. Prends courage, ne crains pas. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Deuxième passage, se trouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. J'aime beaucoup ça. Waouh, quand il y a un passage comme ça, vous savez, ma réflexion, Nicolas, tu n'as plus d'excuses. Hein? Tu es averti. Le Seigneur vient de t'avertir. Je continue le verset parce qu'il ne s'arrête pas uniquement à ce mot-là. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir, de votre fermeté. Voilà quelque chose qui devrait me rappeler dans mon quotidien. Les bien-aimés, c'est nous. Pierre s'adressait à une église locale, Pierre s'adresse à vous personnellement. Tenez-vous sur vos gardes. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous le croyez? Parce que si vous le croyez, ça doit changer tout votre aspect, votre vie, votre manière de penser, votre réflexion par rapport à la vie. Ça doit changer tout votre comportement, vos attitudes, votre manière de vivre parfois. Si vous croyez que Jésus-Christ revient bientôt, vous devez être prêt à cette venue. Amen.
Amen.
Amen.